Bienvenue sur Silab. Il est 14h et des patates, et vous vous apprêtez à écouter une émission produite en 2020.
Il était une fois, sur le grand océan qu'on nomme Internet, une émission. Elle était musicale, elle était collaborative, elle s'appelait le sens du son. Si vous voulez retourner dans le passé, que ce soit pour découvrir ou réécouter ce qu'était le sens du son, vous pouvez consulter le compte Mixcloud de Zorial, son créateur. Zorial, c'est pas moi, moi c'est Cess. Et j'ai décidé qu'il était temps que le son fasse à nouveau sens.
Nouvelle semaine, nouvel épisode, et donc nouveau thème. Le sens du son, c'est un petit rituel qui s'est instauré pour certains et certaines. La musique, ça peut être ça aussi. Une certaine routine, un certain processus dans lequel on s'engage, dans le choix tout particulier du CD, ou alors le moment ou le lieu où on écoute. Allez, c'est décidé, aujourd'hui, on va parler rituels. Avec la participation de Naomi, Lizen, Juliane et Batvador.
Je ne suis pas une personne de rituel. Du moins, c'est la première chose que j'ai pensée quand j'ai eu le thème de l'épisode. Je ne pratique pas de rite religieux. Et je ne raisonne pas avec l'enthousiasme pour cette résurgence d'une forme de sorcellerie à laquelle j'assiste sur les réseaux sociaux. Et je suis encore moins capable de maintenir un semblant de morning ou night routine, comme c'est à la mode sur YouTube, bien que c'est quelque chose qui me paraît souvent séduisant. En fait, il aura fallu une nuit blanche, et le lendemain aussi un réveil difficile, pour qu'au fil des tasses de thé, je mesure l'aspect codifié que représente ce petit rite. Bien sûr, en tant que grande psychorigide des règles, l'importance de chaque étape de la préparation m'avait déjà marqué, comme quelque chose d'infiniment plus sérieux que le ridicule pendant caféiné, l'expresso. Mais comme souvent la paresse me pousse vers le second, qui s'obtient chez moi d'une unique pression d'un bouton, j'hésitais à laisser un rituel. Car oui, je ne prends pas le temps pour toi chaque jour, t'es adoré. Mais tu possèdes bien la temporalité propre à un rite. Alors je réalisais avec horreur, vraie horreur, qu'un nouveau problème se dressait devant moi. Cess veut une musique. Rien n'est plus amusical que le thé que je prépare, toute seule, dans mon coin, en silence. En silence, vraiment. Alors j'ai pris le temps d'écouter la chanson que le thé murmurait à mes oreilles. Il y a un léger crépitement au début, quand le se réveille dans la bouilloire, et qui enfle impétueux et sans pitié jusqu'à être assourdissant. Puis le couvert qui pop de sa boîte, les feuilles qui frissonnent en glissant sur le bord quand je pince cette boîte déjà si vide. Et ensuite la cuillère qui teinte gaiement contre la paroi que je heurte à chaque fois et par inadvertance. Toujours de pair, on entend le son sourd de la tasse posée sur le comptoir et celui du filtre métallique qui la rejoint, de manière beaucoup plus claire. Le glouglou avide de l'eau qui traverse les feuilles en traversant la tasse se disperse dans le silence de la durée d'infusion. C'est un son affreux qui interrompt ce repos quand le minuteur me rappelle mon affaire quelques minutes après. Et alors s'achève mon petit rite musical alors que les dernières gouttes tombent du filtre dans la liqueur. Je suis la méthode occidentale pour mon infusion, et c'est certainement celle que tu connais. J'ai eu la chance d'essayer celle des cérémonies thé japonais et sino-taïwanais. Respectivement le Shanoyu et le Gunfucha. Et je t'invite à les découvrir si tu en as l'occasion. C'est une approche vraiment différente et aussi une expérience gustative. Pour finir, je te laisse avec une chanson traditionnelle du Yunnan. L'une des principales régions de production de thé en Chine devient un thé noir doux et fleuri que je savoure actuellement et dont je ne me lasse jamais.
多少深情的呼噜声，对你倾诉着。 Pour ce sujet du rituel, j'ai envie de vous partager un petit souvenir. C'était quand j'étais au lycée. Mes parents s'étaient séparés et mon père venait me chercher chez ma mère le mardi. Et tous les mardis, on avait un rituel. On s'arrêtait, il y avait un camion à pizza sur notre route, un camion qui faisait des pizzas au feu de bois. Et donc on prenait la route en voiture, on s'arrêtait à ce camion à pizza et on commandait des pizzas reines avec des champignons, du fromage, du jambon, tout ça. Et c'était notre petit rituel, on faisait ça tous les mardis. Et sur la route, on écoutait beaucoup de musique. Et c'était la période où j'étais adolescent, donc voilà, ma crise d'adolescence, ça a été un petit peu de me diriger vers les milieux... métalleux, vers les milieux gothiques, et donc j'écoutais beaucoup de métal, et à cette époque-là j'ai découvert un groupe qui s'appelle Ghost, dont j'aimerais vous partager un morceau, qui provient d'un album qui s'appelle Opus Eponymous, qui est leur premier album, et que j'écoutais beaucoup à cette époque-là, notamment sur la route avec mon père en voiture. Ghost, c'est un groupe à la fois de black metal, donc qui aborde des thèmes plutôt sombres, plutôt sataniques, etc. Et en même temps, un groupe qui se prend pas vraiment au sérieux, puisqu'il a une esthétique et une musicalité très années 80, très... un peu presque kitsch, et c'était vraiment frappant dans leur premier album, et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce groupe. Et donc le morceau que j'ai envie de vous partager aujourd'hui est d'autant plus dans le thème, qu'il s'appelle Ritual.
Rituel. J'ai eu beaucoup de mal avec ce thème parce que j'ai voulu donner une définition précise et universelle à ce mot, alors qu'en fait, pour le sens du son, c'est nos propres définitions qui comptent. Donc, je me suis un peu bougé les fesses et j'ai réfléchi. Et je me suis dit que pour moi, un rituel, c'est...
Salut, c'est Juliane de 2025. Je voulais remplacer ma participation de 2020 car après coup, j'ai appris que je faisais la promotion d'un artiste problématique. Donc, on va le mettre de côté pour toujours et on part sur autre chose. Donc, pour Rituel, ça va être la figure de la sorcière et de tout ce qui va tourner autour, qui va me parler. Par moments, j'ai envie d'avoir cette petite ambiance mystique, on va dire. Et quand c'est comme ça, je lance des playlists witchy sur YouTube. Et ça me permet de découvrir des artistes, des morceaux, des chansons que je n'ai pas entendues depuis longtemps. Et j'ai remarqué que dans ces playlists, il y a souvent des chansons de Fleetwood Mac. Donc Fleetwood Mac, la chanteuse Stevie Nicks, a été soupçonnée, entre guillemets, de sorcellerie, parce qu'elle cultivait aussi beaucoup un côté mystique avec ses tenues, sa manière d'être. Et il y a une chanson aussi qui a beaucoup participé à ça, et c'est cette chanson que j'ai envie de vous proposer pour Rituel. Donc on va se mettre un peu dans cette ambiance avec Rhiannon.
Thank you. 3 jours que je tourne le même rituel dans ma tête et ça ne m'évoque rien du tout. Enfin si, la religion, mais la religion c'est pas trop mon truc. Ça et puis des pratiques importantes que les gens ont éventuellement avant des grands événements ou pendant les grands événements pour les anniversaires ou avant de partir en vacances. Moi j'en ai pas tellement, je voyage beaucoup, mais la seule chose que je fais avant de partir en voyage, c'est mon sac et stresser. Et vraiment, c'est pas très intéressant. Alors j'ai réfléchi, et j'ai fini par trouver. J'ai fini par trouver quelque chose qui se rapprochait d'un rituel. Deux même. Première, c'était le fait que mes parents nous chantaient toujours des chansons avant d'aller se coucher, quand on était petites. Mais dans le répertoire, j'ai rien trouvé qui m'évoque réellement un rituel. Plein de chansons que j'aime bien, mais rien qui... que je trouve très convaincant pour ce thème. Et puis, je repensais à quand on partait en vacances, qu'on allait chez mes grands-parents et qu'on passait devant le Moulin du Diable. Alors, j'imagine que des Moulins du Diable, il y en a plein en France. Mais nous, on passait devant celui-là, et quand on passait devant celui-là, mon père nous demandait si on voulait qu'il nous raconte la véritable histoire du Moulin du Diable. Évidemment, on voulait qu'il nous la raconte, et s'il ne nous proposait pas, on lui demandait. Ça durait longtemps. Et tous les ans, à chaque fois, ou deux fois par an même, mon père nous racontait cette histoire. Alors c'était toujours la même base, hein. Un pauvre meunier qui avait plein d'enfants à nourrir, dont le moulin est détruit, qui ne sait pas comment il va nourrir sa famille, qui rencontre un étranger sulfureux qui lui propose de lui reconstruire son moulin en une nuit, en échange de son âme. Le meunier dit oui, et puis comme il est très malin, juste avant le lever du soleil, il imite le chant du coq, et les diables n'ont pas eu le temps de poser la dernière pierre, et donc du coup il a un nouveau moulin en pierre et son âme. Donc mon père faisait des variations là-dessus. Un jour, le mini était néo-punk, il avait 12 enfants. Un jour, il n'en avait que 3, mais une jambe de bois. Ça a changé tous les ans. Et si jamais on lui disait que c'était pas la même chose que la dernière fois, il nous répondait qu'il la connaissait quand même mieux que nous, cette fameuse histoire. Et donc j'ai pensé à ça, et j'ai aussi pensé à d'autres histoires qu'il nous racontait. Alors il nous en racontait beaucoup, il nous en a lu aussi beaucoup. Il nous a lu Le Seigneur des Anneaux en entier, ce qui est quand même un exploit. Mais il nous racontait aussi beaucoup d'histoires inventées. Et principalement des histoires de Fifi Brin d'Acier. Fifi Brin d'Acier qui vivait toutes sortes d'aventures avec ses parents et son frère John. Fifi Brin d'Acier qui allait ramasser des myrtilles, qui faisait des bêtises à la maison, qui visitait le Mont-Saint-Michel. Et c'était toujours très drôle, c'était toujours plein de bêtises et de choses comme ça. Je pense que mon père les inventait sur le moment, qu'il se rappelait absolument pas 3 heures après, ce qui lui permettait d'en raconter plein. Il nous a dit plus tard qu'en fait, il savait absolument pas qui était Fifi Brin d'Acier et qu'il avait juste entendu ce nom-là un jour et que ça lui avait tellement plu qu'il avait gardé ça en mémoire et que du coup, ben, ça lui plaisait beaucoup de raconter des histoires de Fifi Brin d'Acier. Et à cette même époque, on avait Canal J. Tous les mercredis après-midi sur Canal J, ils passaient un film tous les mercredis après-midi. Donc il y avait toutes sortes de films, comme ça notamment Les Grimmets. Et donc nos parents nous enregistraient les films. Alors des fois on pouvait les voir sur le moment, mais des fois on n'était pas là, donc on pouvait les revoir, puis ça permettait de les revoir à d'autres moments s'ils étaient bien. Il y en a qu'on a gardé, d'autres qu'on a effacés. Parmi ces films-là, on est tombé d'ailleurs sur Fifi Brin d'Acier. Donc on a découvert qui était réellement Fifi Brin d'Acier dans la pop culture. Donc c'est une figure extrêmement connue en Scandinavie et en Allemagne, un peu moins en France. Et à une époque, il y avait une série de petits films. En fait, ils avaient remonté les films en grands films qui étaient plus intéressants parce que beaucoup plus rythmés. Donc c'est une petite fille dont le père est pirate navigateur et qui la laisse toute seule dans une grande maison. Et elle vit sa vie, en fait, elle va un peu à l'encontre de l'ordre moral, elle fait des bêtises, elle n'écoute pas forcément, elle n'est pas adaptée à l'école, et en même temps, elle est extrêmement drôle, intelligente, et c'est vraiment un plaisir de regarder ça, et ça passe toujours très bien maintenant, mais ça fait un peu daté. Et au départ, je m'étais dit, ben, en fait, ce serait ça ma musique de rituel, le générique de Fifi Brin d'Acier, et je l'ai écouté, et vraiment, c'est assez insupportable. Autant la musique, ça passe, autant la chanson, c'est vraiment compliqué à écouter. Du coup, j'ai réfléchi à ce qui pouvait aller dans cette même lignée. Et un autre film qu'on a vu à cette époque-là, c'était Princess Bride. Alors Princess Bride, depuis quelques années, une petite dizaine d'années, c'est hyper connu même en France, mais avant, ça ne l'était pas du tout. C'était très connu aux États-Unis, c'est un film culte, mais en France, pas grand monde connaissait. Et donc c'était passé un mercredi après-midi sur Canal J, on avait regardé ça, on ne savait pas à quoi s'attendre, et on avait adoré. Et mon père aussi avait adoré, était mort de rire. Et donc c'est une espèce de parodie de film de princesse, en fait, enfin, une princesse qui... Au départ, c'est pas une princesse, puis elle se fait enlever, puis elle a un vrai amour, c'est l'amour véritable. Et en fait, tout ça, c'est un grand-père qui raconte à son petit-fils quand il est malade. Et le doublage est génial, l'histoire est très drôle, c'est vraiment chouette. Et donc, pendant des semaines, des années, chez nous, on était Inigo Montoya, et ça faisait tellement rire mon père qu'il l'a dit je sais pas combien de fois. Ça m'a fait penser à ce film-là, et à ces répliques-là qui nous ont fait rire et qui nous soutent toujours, et... quand on rencontre une nouvelle personne ou qu'on sort avec une nouvelle personne, par exemple, c'est un truc qui revient, c'est est-ce que tu as vu ce film-là, est-ce que machin, et donc faire découvrir ce film. Et du coup, ça reste dans ma mémoire comme une sorte de rituel vraiment chouette, et donc bah voilà le thème de Princess Bride.
C'était le 15e épisode du Sens du Son. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve bientôt, j'espère, avec de nouvelles participations et toujours autant de nouveaux sons. Notre petit rituel entre vous et moi, entre elle et eux, semaine après semaine, dont j'espère vous ne vous lassez pas.